L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première.
Nathalie Arthaud, bonjour, bienvenue. Vous êtes née en 1970, c'est votre deuxième candidature au présidentiel. Vous menez cette campagne donc au sein de Lutte Ouvrière depuis des années, qui avait pendant des années aussi comme porte-parole Arlette Laguiller. Est-ce que je peux vous demander pour commencer si vous avez la ferme intention de participer au débat qui va avoir lieu non seulement sur les chaînes d'information, mais celui de France 2 qui visiblement pose un problème?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que je me rendrais disponible pour tous ces débats, évidemment. Regardez, on vient de faire une revue de presse, là. Et finalement, dans cette revue de presse, on ne parle que de 5 candidats, comme s'il n'y avait à choisir qu'entre 5. Eh bien non, il y en a 6 autres. 6 autres, et je crois que, effectivement, la moindre des choses dans une démocratie, puisque tout le monde nous explique, on est très fiers, nous sommes dans une grande démocratie, eh bien c'est que tous les candidats aient la possibilité, effectivement, de s'exprimer et de s'adresser, d'expliquer leur programme, de pouvoir fournir les explications,
les développements,
etc. Mais qu'il
n'y a pas un problème avec le service public, quand même, parce que normalement, les positions politiques qui sont les vôtres sont plus proches de l'expression du service public que des chaînes privées qui sont les chaînes d'information.
Eh bien voilà, la preuve, chacun sera juge, effectivement, de la situation.
C'est-à-dire
que, y compris dans le service public, les petits candidats, puisqu'il faut parler comme ça, ne sont pas mieux traités, effectivement, que sur les autres chaînes. C'est la réalité.
Et est-ce que ce n'est pas une constatation qui, justement, va à rebours de vos convictions de gauche? C'est-à-dire que le service public, pour vous, c'est très important, et vous faites la constatation que ça ne marche pas du tout.
C'est une constatation que le conformisme, que la comédie électorale qui consiste toujours à hiérarchiser, en fait, à présélectionner les candidats qui vont bien à ceux qui dominent, et dans les services publics, c'est exactement la même chose, eh bien, voilà, c'est ça la situation. C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'égalité dans notre société. Il n'y a pas d'égalité. Et y compris dans l'accès aux services publics. Vous savez, y compris, on parle beaucoup dans cette campagne de ce qui se passe dans les campagnes, de ce qui se passe dans les régions rurales. Regardez l'accès à l'hôpital, à la poste, à la SNCF, mais c'est exactement pareil. Vous savez, on parle de services publics, mais en réalité, tout est gangréné par les principes de rentabilité, d'économie, et c'est toujours sur la population la plus défavorisée que ça retombe. Vous savez, le système capitaliste, il dirige, il domine toute la société.
Je vous pose des questions?
Bien sûr, allez-y.
Dans quelle société règne l'égalité? Je veux dire, géographiquement et historiquement, je pose cette question à une enseignante qui a été capétienne et agrégée d'économie. Est-ce qu'il existe au moins une société, vous avez entendu parler d'une société où règne l'égalité?
Vous voulez me démontrer quoi? Que ce n'est pas possible? Que les inégalités, que les injustices sont le propre de l'homme? C'est ce que vous voulez me démontrer? Moi, je ne le crois pas.
Non, mais que la différence existe. On pourrait prendre ça d'une manière moins négative.
Moi, ce que je vois, c'est que, y compris dans les sociétés les plus prospères, dans ce qui est considéré comme le phare du capitalisme et de la réussite du capitalisme, les États-Unis, les inégalités sont effroyables. Sont effroyables. Les injustices sont monnaie courante.
Est-ce qu'il n'y avait pas d'inégalité chez les Romains? Est-ce qu'il n'y a pas d'inégalité chez les Athéniens? Est-ce qu'il n'y a pas d'inégalité dans le Byzance antique?
Non mais autant, si vous voulez, dans des situations, dans des sociétés où l'humanité n'avait contrôlé... avec des ressources et un savoir limité, on peut dire on pouvait rien faire contre la disette, on ne pouvait pas offrir des conditions de vie dignes à l'ensemble de la population. Autant aujourd'hui, au 21e siècle, dans une société qui a tant de savoir, tant de possibilités, où le progrès on l'a sous la main, qu'il y ait aujourd'hui encore 20 millions de femmes et d'hommes entre la vie et la mort, par exemple dans l'Afrique de l'Est, c'est insupportable. C'est révoltant. La société est capable de bien plus. On n'en est pas, dans la même situation que l'Empire romain aujourd'hui. Les moyens, y compris pour créer l'abondance, existent.
C'est une question que je vous posais à une femme qui est une intellectuelle et qui connaît l'histoire.
Voilà, je crois qu'au XXIe siècle, ces inégalités, cette misère, cette précarité à laquelle on condamne, y compris les forces productives, parce que ce sont ceux qui participent à la production, ce sont les ouvriers, ce sont les petites mains, ce sont les employés, n'est absolument pas justifié. C'est une politique, c'est un choix qui est décidé par ceux qui dominent, d'effectivement ceux qui possèdent les moyens de production, d'accaparer les richesses, de s'enrichir en appauvrissant une partie de la population. Donc moi, ces choix-là, et c'est une question de politique, d'engagement, il faut le combattre.
J'ai deux questions, très tranquillement. Beaucoup de gens, des démographes, considèrent que ces inégalités explosent, c'est vrai, mais qu'en même temps, 800 millions de personnes dans le monde, à cause du capitalisme que vous dénoncez, ont accédé à ce qu'on appelle globalement la bourgeoisie moyenne, en tout cas sont sortis globalement de la pauvreté. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ambigu dans cette histoire-là? C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas simplement destructeur. Il ne fabrique pas simplement de la misère, il fabrique aussi des gens. Dans votre génération, vous êtes plus jeune que moi, mais comme dans la mienne, on parlait de pays sous-développés. Maintenant, pour une grande partie des pays du monde, c'est terminé. On n'a plus cette délimite. Ça prouve que quelque chose a changé.
Non, mais moi, je ne veux pas faire de grands discours philosophiques, etc. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les grands groupes en France, ceux qu'on connaît, ceux qui emploient des milliers d'ouvriers là, à Poissy ou à Flins ou à la BNP, Paribas, c'est qu'ils prospèrent, ils font des milliards de bénéfices, ils ont même explosé leurs profits. Mmh. Et ce que je constate, c'est qu'ils écrasent la condition ouvrière, que les cadences sont plus difficile, qu'on s'use plus vite au travail, qu'on devient très rapidement invalide ou handicapé sur les chaînes de montage aujourd'hui, au 21e siècle, en France, dans la région parisienne, que l'espérance de vie en bonne santé, elle recule.
Elle a augmenté pendant 15-20
ans. Tout ça, c'est scandaleux. Quand je vois qu'ils bloquent les salaires, qu'ils maintiennent dans la précarité, dans la misère, une partie des travailleurs ici, c'est insupportable. Donc moi, j'appelle effectivement le monde du travail qui est toujours, écrasé, à se relever, à dire non, ça suffit. Dans cette élection, on peut effectivement mettre en avant ses intérêts, ses besoins, et ne pas se contenter de ce qu'on nous donne, qui est inadmissible et révoltant.
C'est-à-dire, toi, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment quand même où l'extrême-gauche devrait songer à une certaine forme de coagulation, par exemple avec Mélenchon et les autres?
Non, mais Mélenchon ne défend pas la même politique. Moi, dans cette élection, je lève le drapeau des luttes collectives. Il va falloir que les travailleurs se battent s'ils ne veulent pas, effectivement, reculer toujours et encore.
Merci beaucoup donc d'être venu sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Je rappelle que c'est votre deuxième candidature donc, et que c'est la 10e présidentielle.